Well, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand.
Sur la route.
Yes, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand.
Émilie Glory.
Et Simon Martin.
Lord, I really miss my baby. She's in some foreign land.
Carnet de carnet de voyage, documentaire de documentaire, les routes que nous explorons n'ont jamais vu la couleur de nos souliers. Voyageurs immobiles, nous traverserons, assis dans un fauteuil, les paysages que nous décrivons. Pour cette expérience, l'encyclopédie universelle de l'Internet sera nos yeux et nos oreilles. Notre émission Sur la route n'est pas un voyage, mais l'idée même du voyage, le rêve d'un départ penché sur une carte routière. Alors préparez-vous et montez dans le premier rêve qui passe en partance pour le Pérou.
Les Incas ont construit un système de route développé, avec deux grands axes parallèles reliés par des axes secondaires. Le chemin Est, qui traverse les Andes, et le chemin Ouest, qui longe la côte atlantique au pied des montagnes. Le chemin le plus long et le plus prestigieux était El Camino Real, le chemin royal, le chemin des Andes, Capacnan, en langue quechua, qui traverse 6 pays et qui mesure 6000 km de long. L'autre, El Camino de la Costa, est long de 4000 km. Mais c'est un véritable maillage que les Incas ont imaginé pour se déplacer facilement dans tout l'Empire, que ce soit pour des raisons économiques ou militaires. Le réseau était jalonné d'auberges, de villages, de forts militaires. Au total, les routes Incas, mises bout à bout, faisaient 40 000 km de long. Les routes Incas passent par la cordillère des Andes, le désert d'Atacama et longent le lac Titicaca. Il en reste des vestiges dans tous les pays concernés, mais la portion péruvienne pavée est de loin la mieux conservée. Axe secondaire du Camino Real, on l'appelle la route de l'Inca au Machu Picchu.
On me parla à Ollantaytambo des vestiges anciens qui existaient sur le versant est de la cordillère et dont je connaissais deux noms les principaux, Vilcabamba et Choquequirao. Ce dernier groupe de ruines, je l'avais vu sur le bord de l'Apurimac, en face de la terrasse de Incahuasi. On me parlait d'autres villes encore, de Huanapichu et de Machu Picchu, et je résolus de faire une dernière excursion vers l'est avant de continuer ma route vers le sud. Après Avaspampa, qui contient un certain nombre de murs anciens en mauvais état, on monte pendant près de 5 heures jusqu'au sommet du col. Là se trouve un singulier monument. C'est un tertre ou pyramide formé avec les crânes des chevaux, des mules, des ânes morts en cet endroit élevé. Ce monument funéraire est surmonté d'une croix dont le sommet et les bras supportent également des crânes de ces animaux. Mes guides indiens se signèrent sans s'arrêter et en interpellant les bêtes avec des jurons énergiques. Une surprise des plus agréables m'attendait dans cette gorge de Lucumayo. La rivière ayant produit un éboulement, nous ne pûmes suivre le sentier ordinaire. Nous cherchâmes donc notre route à travers les arbrisseaux de la plaine de Umasbamba. Soudain, nous nous trouvâmes en présence d'un palais en granit, d'un appareil semblable aux plus belles parties d'Ollantaytambo. L'intérieur et l'extérieur étaient cachés par la forte végétation tropicale qui s'élève déjà vigoureuse en cet endroit. C'était probablement une des stations intermédiaires entre Vilcabamba et Choquequirao d'un côté et Ollantaytambo de l'autre. Cette découverte si inopinée, due au plus grand des hasards, m'a fait comprendre combien de trouvailles précieuses on peut et on doit encore faire dans ces parages avant de connaître d'une façon complète et définitive le pays des Incas.
Los achachilas, ir pa' achachilanaca, sa tiwai ku ama puni tinka poitu ai chunyan kitai ia 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 ia
informations dont nous disposerons pour commencer notre voyage. Un maillage de routes composé de segments verticaux et horizontaux qui se rencontrent, créant ainsi des carrefours. Si l'intersection est large, bruyante, populeuse ou de simples croisements, si les graminées s'y déploient dans l'intimité d'une borne couverte de mousse. Pour parer à une éventuelle pénurie de vocabulaire, chargeons-nous pour notre voyage du nécessaire lexical indispensable, à savoir chaussée, chemin, itinéraire, voie, sentier, ruban, lait, ligne, couloir, etc. Gardons enfin dans un coin de notre mémoire, en marge de notre journal de route, qu'une route peut être grande, mais qu'elle sera plus généralement grand, impériale ou royale, nationale ou départementale. Par contre, mettons dès à présent à la corbeille cette famille de routes qui n'existe que dans l'imagination des cartographes, à savoir route des Indes, route de la soie, des épices, du rhum, du vin, la célèbre route magnétique ou encore l'incertaine route de la fortune ou de la gloire. Elles ne nous serviront à rien. Nantis de tout ce savoir, il est temps pour nous de prendre la route.
Thank you.
les nombreux explorateurs à s'être enfoncés dans les entrailles de la cordillère, à la recherche des vestiges de la civilisation Inca et de ses éventuels trésors, il y a bien sûr Hiram Bingham, redécouvreur surdoué du Machu Picchu en 1911 et auteur d'un récit spectaculaire qui relate son aventure, Lost City of the Incas, en 1948. Celui qui a inspiré le personnage d'Indiana Jones a été aidé dans sa quête par des fermiers locaux, mais aussi par une carte publiée en 1880 par un certain Charles Wiener. Ce franco-autrichien, né à Vienne en 1851, est l'un de ces héros oubliés rendus attachants par leurs échecs. Spécialiste de l'Empire Inca, sur lequel il publie un essai dès 1874, il a parcouru la vallée de l'Urubamba en long, en large et en travers en 1875 et s'est lancé lui aussi sur la piste des cités perdues. Un Indien lui indique bien les ruines du Machu Picchu, mais il ne parvient pas à les trouver. Il les place pourtant sur sa carte, là où se trouve leur emplacement supposé, et note soigneusement Machu Picchu, ouvrant la voie à ceux qui suivront. Les collections ramenées de l'expédition de Charles Wiener seront utilisées pour la création du musée d'ethnographie du Trocadéro, ouvert à Paris en 1878, qui fermera ses portes en 1935. Actuellement, la collection Wiener peut être vue au musée du Quai Branly. En 1880, Charles Wiener écrivit le récit de son expédition de 2 ans au Pérou sous le titre « Voyage au Pérou et en Bolivie ». Il sera notre guide.
Aucune cité du Pérou, pas même Lima, ne m'avait paru offrir un caractère aussi original et imposant. Le Cusco, ou proprement Cusco, est exclusivement bâti en pierre. Le spectateur juge instinctivement l'effort de l'ouvrier et sent que la personnalité du constructeur de ces monuments gigantesques s'affirme d'une façon grandiose. Les constructions ne sont point faites de pierre de taille, mais de matière granitique, de diorite, de porphyre, que l'on éclate avec la plus grande difficulté, et, dans des cas très rares, de grès extrêmement résistant. La plupart de ces pierres sont gris foncé ou noires. Elles ont souvent des reflets bleuâtres, et en maintes endroits, les cristaux qu'elles contiennent brillent au soleil. Le Cusco est bien la Rome de l'Amérique du Sud. Les races se sont succédées sur cette terre, et chacune d'elles a bâti ses monuments à côté des vestiges de ses devanciers, et souvent sur les ruines même du passé. Et de même qu'il a existé une Rome légendaire, une Rome des rois, une Rome républicaine, une Rome des Césars, une Rome universelle des papes, et qu'aujourd'hui il existe une Rome italienne, nous retrouvons au Cusco la ville cyclopéenne, la ville des Pouruas, la ville des Amautas, la ville des Incas, la ville des Espagnols et des Péruviens. Chacune parfaitement caractérisée et formant malgré toute leur diversité cet ensemble qui caractérise une cité éternelle. Des collines abruptes couvertes de végétation resserrent le vallon qui ne s'ouvre que du côté sud. La ville est établie sur des terrasses artificielles sur les versants de la montagne qui domine au nord et s'étend dans la vallée verdoyante. Dans cette atmosphère raréfiée, la lumière paraît plus immatérielle et semble toute couvrir de son éclat cristallin. 5 cours d'eau sillonnent la vallée en traçant des lignes blanches sur son tapis vert. Entre ces divisions naturelles s'étendent les quartiers de la cité, œuvre de plusieurs races, dont chacune n'a connu sa devancière qu'à travers les fumées de la bataille ou dans les ruines énigmatiques d'un passé inconnu. Il faut 4 à 5 jours de marche pour rejoindre l'ancienne cité Inca de Machu Picchu. Depuis notre point de départ, le chemin près de la rivière Urubamba, à 80 km au nord de Cusco. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Plusieurs obstacles s'opposent à un départ irréfléchi. Premièrement, l'altitude qui est de 2500 mètres, avec d'importants dénivelés pouvant provoquer le mal aigu des montagnes. Maux de tête, vomissements, troubles de l'équilibre et finalement effondrement de la volonté, délabrement de l'humeur, mélancolie générale. Bref, il faut s'acclimater au minimum 2 jours à Cusco, l'ancienne capitale des Incas, située à 3200 mètres d'altitude. Deuxièmement, la fermeture du chemin au mois de février. Fermeture justifiée par un entretien annuel afin de garder le chemin praticable, mais aussi pour le nettoyer des déchets laissés par des randonneurs qui s'exposent à de terribles malédictions pour avoir souillé la montagne. Troisièmement, une réservation obligatoire auprès des agences compétentes. Il est interdit d'organiser son périple soi-même. 500 marcheurs par jour, dont seulement 200 trekkers, le reste étant des guides et des porteurs, sont autorisés pour éviter d'endommager cette route qui est à la fois patrimoine naturel et historique. Tracasserie des temps modernes, voilà ce qui nous vient à l'esprit. Idée à chasser tout de suite, car au temps des Incas, la route n'était pas plus accessible aux simples citoyens et il fallait des autorisations spéciales pour l'emprunter.
Il existait autrefois des messagers, les chasquis, des hommes athlétiques qui couraient de ville en ville. Ils pouvaient faire avancer un message de 240 km en une seule journée. Le système était simple. Un chasqui courait de tambo en tambo, où il était relayé par un autre chasqui. Il le prévenait de son arrivée à l'aide d'une conque appelée Poutoutou. Puis il lui transmettait les informations. Contrairement aux Mayas, les Incas n'avaient pas de système d'écriture. Tout était donc transmis à l'oral, mais aussi à l'aide des quipus, les nœuds qui parlent. Il s'agissait d'une corde, à laquelle étaient reliées des cordes plus petites, et sur ces cordelettes, on faisait des nœuds. Le but était de retenir des informations liées au nombre comme une sorte d'aide-mémoire codée. Le chasqui n'était donc pas un simple messager, mais un homme de confiance, et il devait impérativement être présent pour transmettre le quipu, car lui seul en connaissait toute la signification. Les chasquis empruntaient les routes incas, mais aussi des ponts de cordes vertigineux.
La route du Machu Picchu traverse tous les paysages andins. Forêt de nuages, alpages, haute montagne. Une forêt de nuages n'est pas à proprement parler une forêt de nuages, comme nous le pensions naïvement. Il faudrait plutôt parler d'une forêt dans les nuages, ou, pour couper court à toute extravagance, une forêt au milieu des nuages. Une forêt de nuages est donc une forêt tropicale de montagne qui baigne dans une brume permanente. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Quant aux alpages, appelés toundra alpine en anglais, ils commencent au-dessus des arbres à partir de 3500 mètres d'altitude. Les seules plantes qui y poussent rasent le sol, là où les vents violents et glacés ne peuvent les atteindre. Ces vents soufflent seulement quelques centimètres au-dessus des plantes coussins, comme on les appelle. Leurs racines s'enfoncent loin sous le sol rocailleux. La floraison prend parfois 2 ans. Feuillage dense, compact pour éviter la prise au vent. On y trouve mousse, herbe, pâturin, carex, lichen. Écosystème des plus fragiles, ne pas s'éloigner des chemins, merci. La haute montagne, nous y sommes. Mais aucun risque de monotonie, le chemin passe par de nombreux sites archéologiques importants, faisant monter la tente à chaque pas. Le matin, ma route me conduisit dans une gorge profonde située à 1600 mètres d'altitude. Et soudain, je me vis transporté en pleine végétation tropicale. J'étais au milieu d'une atmosphère de feu. La couleur des choses parut plus intense. Les teintes étaient plus chaudes. La nature morne des Andes sembla, comme par un coup de baguette magique, animée de cette vie qui caractérise les pays du soleil, des oiseaux dans les arbres, des lézards sur les chemins, et dans l'air des nuées de moustiques de toute grandeur, de toute espèce. La vallée ne s'étendait guère que sur une longueur de 5 km. Puis, le chemin remontait encore sur un versant, et le monde équinoxial s'évanouissait peu à peu. Les arbres semblaient se rapetisser. Les versants étaient couverts de ces arbustes de mollets, dont le fruit sert aux Indiens dans ces parages à faire une boisson fermentée et très enivrante qu'ils appellent chicha de mole. Peu à peu, ces arbustes disparaissaient. Le quenoa prit place, puis le paja. Un vent vif et pénétrant passa sur mon visage brûlant et me fit frissonner jusqu'aux os. J'étais sur la puna. La vie s'était éteinte autour de moi, le vide s'était fait dans la nature. J'étais encore dans ces solitudes étranges où, entre la terre nue et le ciel glacé, le voyageur est seul vivant.
Première étape historique de notre voyage, à seulement 1 km de marche du début du chemin de l'Inca, les ruines de Patayacta. Ces ruines comprennent un hôtel circulaire pour les cérémonies ainsi qu'une centaine d'habitations. Construction en terrasse typique des Incas à flanc de montagne. Le chemin longe ensuite la rivière Cusichaca jusqu'au village de Huayllabamba, étape pour les randonneurs. C'est alors que l'ascension commence. Le chemin monte vers le point le plus haut de la route de l'Inca dans les Andes, le col de Warmiwanuska, à 4200 mètres d'altitude. La traduction littérale du nom Quechua est « le col de la femme morte », appelé ainsi car ses courbes font penser à une femme étendue sur le dos. Avant d'y arriver, on traverse une forêt de nuages. Les nuages en question, uniques en leur genre, sont appelés « Silva genitus », ce qui signifie « né de la forêt ». Paradis naturel, refuge où s'entassent des centaines d'essences d'arbres et des milliers d'espèces animales, à l'abri sous la couverture de nuages qui enveloppent presque en permanence ces forêts situées entre 1500 et 3000 mètres d'altitude. Des sanctuaires qu'on aimerait aussi impénétrables qu'ils le paraissent, mais qui sont aujourd'hui menacés par l'activité humaine. Ils sont pourtant encore largement inexplorés et on y découvre régulièrement de nouvelles espèces. Au Pérou, sur la route de l'Inca sur laquelle nous cheminons, on y trouve notamment les quenoales, des arbres d'altitude endémiques à la cordillère des Andes.
Si on voulait réunir toutes les beautés et toutes les étrangetés de la nature en une sorte de panorama mouvant, se déroulant aux yeux du spectateur enchanté, les sentiers bordés de roches grisâtres à moitié couvertes de plantes grimpantes, les grandes prairies interrompues par des collines abruptes, aux pans souvent granitiques ou schisteux, dans les fentes desquelles poussent des herbes en fleurs, des terrasses en gradins naturels, des chaumières devant lesquelles paissent des chèvres et des vaches, au loin des montagnes aux crêtes capricieuses, enfin, dans les bas-fonds, un torrent formant des îlots couverts d'une végétation abondante, on offrirait un tableau semblable à celui qui se déroula devant nous pendant toute cette journée. C'est ici, à Lolucapampa, situé à 3800 mètres d'altitude, que nous planterons notre tente ce soir. L'atmosphère y est sereine et peut-être nous réveillerons-nous nez à nez avec un lama. Les colibris aussi viendront nous redonner des forces. Et si nous parvenons à détacher nos yeux du massif du Huayanay, sur lequel nous avons une vue imprenable, ce sera seulement pour ne pas faire une mauvaise chute et nous émerveiller devant les dizaines d'espèces d'orchidées sauvages qui fleurissent sous nos pieds.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre des extraits du récit de voyage de Charles Wiener, Voyage au Pérou et en Bolivie 1875-1877, paru en 2010 aux éditions Ginkgo. La musique qui accompagnait ces extraits lus par Simon provenait de l'album Le chant de la terre et des étoiles de la chanteuse Quechua Luzmila Carpio, une création inspirée par le grand livre des Indiens Quechua. Les pauses musicales ont été assurées par le groupe Inca The Peruvian Ensemble et le morceau Sicuriada, dans lequel vous avez pu entendre notamment les sicu andins, les fameuses flûtes de pan. Nous avons accompagné également El Choco Chanca avec le titre Mystic Gallo qui mettait l'accordéon à l'honneur, puis à nouveau Inca The Peruvian Ensemble avec quelques notes de l'introduction du mythique El Condor Pasa.
Тарах 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 тарах